France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, à quelques jours de Noël, je vous propose un rendez-vous un peu particulier, façon étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Je vous invite en effet à rencontrer un fantôme, mais pas n'importe quel fantôme, le fantôme de l'opéra, celui qui hante l'opéra Garnier. Et pour le rencontrer, j'ai fait appel à un spécialiste, à Gérard Fontaine, qui connaît le palais Garnier comme sa poche. Le fantôme de l'opéra, légendes et mystères au palais Garnier, aux éditions du patrimoine, avec Gérard Fontaine. Un extrait de la musique composée par Andrew Lloyd Webber pour le Fantôme de l'Opéra, une comédie musicale créée en 1986, et puis une adaptation cinématographique signée Joël Schumacher en 2004. Bonjour Gérard Fontaine.
Bonjour Philippe Venturini.
Vous étiez venu nous présenter un livre, un très beau livre sur l'Opéra Garnier. Vous persistez à déambuler, à errer à travers les couloirs du Palais Garnier que vous connaissez si bien pour nous présenter donc les légendes et mystères au Palais Garnier avec ce fantôme de l'Opéra. Alors, un petit rappel historique quand même, le fantôme de l'Opéra, quand apparaît-il ?
L'origine, c'est un roman de Gaston Leroux.
Oui.
C'est fondamental. Même si aujourd'hui c'est devenu, et votre musique d'introduction était particulièrement bien choisie, parce que c'est devenu un mythe anglo-saxon. En réalité, les Français en ont entendu parler, parce naturellement, fondamentalement, ce qui fait la notoriété mondiale aujourd'hui du fantôme de l'opéra, c'est les comédies musicales et les films qui l'ont précédé, naturellement.
Ouais, ouais.
Songez que pour la comédie musicale, il y a déjà eu 140 millions de spectateurs, et ça continue. C'est-à-dire que c'est toujours joué, tous les soirs, à Broadway, également à Londres, et il y a donc 4000 personnes de plus tous les jours.
Ouais.
C'est absolument incroyable. Ouais. Et quand on, en particulier quand on pense que ici en France, on n'a jamais vu la comédie musicale. Mmh. C'est un des rares grands pays au monde où ça n'a jamais été donné. Ça a failli l'être il y a quelques années. Puis il y a eu un incendie à Mogador, comme vous savez, qui a détruit les décors. Donc on a annulé le projet. Mais, pour que je sache, pour l'essentiel, les Français, ignorent que le fantôme de l'opéra, c'est une histoire d'abord et avant tout qui est née en France,
Qui
est née à Nice plus particulièrement. Ouais. Ça a été écrit par Leroux sur les pentes du Mont Boron.
Quelle réception a eu le livre d'ailleurs ?
Bon, c'était pas terrible quand on revoit les statistiques d'époque. Au bout de 8 ans, par exemple, l'éditeur Lafitte, qui était quelqu'un qui savait faire de la communication, mais il proclamait comme quelque chose de très très bien le fait d'avoir atteint les 20 000 lecteurs. Ça n'a pas été le roman. C'était pas très un succès de librairie, notamment par rapport à d'autres romans de Leroux.
Et Gérard Fontaine, qu'est-ce qui, à votre avis, justifie ce mystère, cette apparition de ce fantôme à l'Opéra Garnier? Est-ce qu'il y a d'autres bâtiments à travers le monde? Est-ce qu'il y a d'autres maisons d'opéra, tout simplement, qui ont suscité cette même imagination littéraire que ce fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux?
Que ça ait pour cadre un opéra, quel qu'il soit, bon, est assez logique. Parce que l'art lyrique est plein de fantômes, c'est, notamment à cette époque-là. Hein, c'est l'époque de Hamlet, c'est l'époque de Macbeth, c'est l'époque de la Dame Blanche, c'est l'époque où l'art lyrique était peuplé de fantômes. C'est aussi assez normal, puisque l'art lyrique, c'est un songe qui joue beaucoup avec l'amour et la mort. Et un fantôme, c'est exactement ça. L'histoire du fantôme de l'opéra, c'est une histoire d'amour au cœur. Hein, et alors, pourquoi l'opéra, je dirais d'abord et avant tout, pourquoi pas. Mais faut pas oublier aussi que Leroux s'est certainement, très certainement, inspiré d'une nouvelle d'Edgar Poe, qui est le fantôme de Canterville, qui se passe non pas dans un opéra, mais dans un château, et c'est exactement la même histoire. C'est une jeune femme, enfin c'est un fantôme qui est amoureux d'une jeune femme, laquelle est liée à un lord anglais qu'elle épousera à la fin, mais elle est tiraillée entre les deux et elle hésite. Ce qui est exactement l'histoire de la Christine Daae du roman de Leroux.
Ouais. Et est-ce que, parce qu'il faut il faut dire à nos auditeurs que c'est un très beau livre, hein, le livre que vous présentez, très richement illustré avec, il y a des photos d'époque, des photos du chantier de l'opéra Garnier, il y a des plans, il y a des illustrations, des peintures d'époque, c'est vraiment ce qu'on appelle un très beau livre. Est-ce que le bâtiment, quand même, ce palais Garnier, si mystérieux quand même, appelle ce genre de récit, Gérard Fontaine?
Oui, parce que le palais Garnier a une caractéristique essentielle que Leroux a très bien saisie et qu'il a exploité à fond. C'est que c'est un bâtiment qui est un décor plaqué sur une structure. La structure était très novatrice, c'est une structure de fer, l'ensemble du bâtiment de l'opéra est bâti, repose sur une structure de fer. Ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, et déjà dans le livre précédent. Garnier a plaqué sur cette structure de fer tout un décor qui est une apparence, et entre la structure réelle et l'apparence que voit le spectateur, il y a évidemment plein d'interstices. Donc on peut se glisser dans tous les coins et le fantôme peut être absolument partout sans être vu nulle part.
Madame Carlotta, vous ne danserez pas ce soir, vous ne danserez pas. Madame Carlotta danse à décrocher le lustre ce soir.
Vous avez sans doute reconnu la voix de Michel Bouquet. Il y avait également l'Orchestre Philharmonique des Pays de Loire dirigé par Marc Soustrot. C'était un extrait du Fantôme de l'Opéra, musique de Marcel Landowski. Gérard Fontaine, je l'ai dit, que le livre était vraiment magnifiquement illustré. Vous avez évidemment participé, suggéré, j'imagine, beaucoup d'illustrations que l'on trouve à travers les nombreuses pages de ce livre.
Oui, mais c'est, l'illustration est essentielle, le visuel.
Pour voir le fantôme?
pour le suggérer, éventuellement, voir. Là, on vient d'entendre, mais ça peut être accompagné quand même d'images très spectaculaires. On vient d'entendre la chute du lustre, vécue depuis les directeurs, depuis la loge numéro 5, la fameuse loge dite du fantôme. Et évidemment, la chute du lustre, je dirais qu'elle gagne plus à être vue que dans l'admirable au demeurant musique de Landowski, où finalement, si on ne sait pas que le lustre tombe, on ne sait pas exactement à quel moment de sa partition ça intervient. Alors, ceci dit, je tiens aussi à rappeler que cette musique accompagnait un ballet magnifique de Roland Petit qui a été filmé, qu'on peut voir et qui est absolument superbe.
Et donc, pour illustrer un pareil sujet, justement, on l'a un peu évoqué, mais un fantôme difficile par définition à représenter. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers cette sélection d'images, Gérard Fontaine?
Montrer l'histoire, l'accompagner. Enfin, vous savez, nous sommes dans une époque quand même d'images. Nous sommes dans un monde où les gens comprennent d'abord avant tout à partir de ce qu'ils voient
et ressentent davantage qu'ils ne
pensent, je dirais.
En fait, mais il y a beaucoup de documents
de l'époque.
Il y a beaucoup de documents d'époque.
Il y a beaucoup aussi de documents contemporains. Notamment, il y a beaucoup d'extraits de films.
Beaucoup
d'images de films. J'ai été aidé dans ce travail par une admirable documentaliste qui s'appelle Laurence Pedro, à laquelle j'ai le plaisir de rendre hommage, surtout grâce à vous, qui a fait un travail de recherche, qui m'a accompagné dans ce travail de recherche, en collant au mieux à mon texte et à ce que je souhaitais suggérer. Parce que c'est vrai que les mots, c'est quand même un petit peu abstrait par rapport, d'une façon générale d'ailleurs, parler d'art avec seulement des mots, c'est très difficile. Il faut faire un équivalent artistique de l'œuvre d'art. C'est un exercice de poète, c'est un exercice de, mais qui n'est pas évident en soi. Et je trouve que ce serait dommage de ne pas céder de la dimension visuelle de l'évocation.
Et Gérard Fontaine, à partir de quand la musique s'est-elle intéressée au fantôme de l'opéra? Parce qu'a priori, c'est un sujet en or.
C'est un sujet en or, mais que, comme je le disais tout à l'heure, était déjà présent dans le... Mais vous avez des fantômes partout, dans Mozart par exemple. Le commandeur, c'est
oui,
quoi?
Mais ce fantôme, celui de Gaston Leroux, à partir de quand la musique a commencé à lui prêter une
oreille? À partir du moment où c'est devenu, à mon avis, ou à ma connaissance, à partir du moment où on a adapté le fantôme de l'opéra au cinéma. Parce que le cinéma, c'est le continuateur de l'opéra. La reconstitution d'un monde complet. Et la musique joue toujours. Dans tous les films que je connais, il n'y a pas de film sans musique. Ça n'est pas, s'il est sans musique, il est privé d'une de ses dimensions. La musique est un des moyens les plus efficaces. Je crois que Michel Onfray en parlait sur votre antenne, d'ailleurs, pour toucher les autres. C'est un immatériel matériel qui permet de... C'est pas un hasard. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'il ne parle pas davantage de l'opéra, parce que l'opéra, le duo d'opéra, par exemple, c'est exactement ça. Un duo d'opéra, c'est une façon de faire l'amour, à la fois matériel et immatériel.
Et vous évoquiez, Gérard Fontaine, la loge numéro 5. Alors effectivement, il y a plusieurs pages qui sont consacrées à cette loge numéro 5 dans le livre, sans peut-être pas tout dévoiler, mais qu'est-ce qui se passe dans cette loge numéro 5 alors?
Ah, il se passe pas énormément de choses, mais essentielles. C'est l'endroit... Je vais répondre à votre question en la déformant un tout petit peu. Pourquoi la loge numéro 5?
Eh bien, si vous voulez, pourquoi alors?
C'est, d'abord et avant tout, c'est un admirable point poste de commandement. C'est-à-dire que c'est le lieu idéal où l'on voit absolument toute la salle et une grande partie de la scène. Où on voit depuis le parterre jusqu'au lustre, j'insiste, le lustre, et c'est l'endroit où se produit une scène clé du roman de Leroux, c'est-à-dire où le fantôme oblige les directeurs de l'opéra à comprendre qui est le patron à bord. C'est-à-dire qu'il passe son temps à leur susurrer dans le cou, comme on a entendu tout à l'heure dans l'extrait de Landowski. On entend le fantôme susurrer au directeur de l'opéra, elle chante à des crochets de lustre, et patatras, le lustre tombe. C'est la démonstration de qui est le patron à bord.
Un extrait de la musique d'Ennio Morricone composée pour Le Fantôme de l'Opéra, film de Dario Argento, film de 1998. Gérard Fontaine, ce récit donc de Gaston Leroux, Le Fantôme de l'Opéra, a été adapté de très nombreuses fois au cinéma.
Oui,
c'est impressionnant, en fait.
Oui, c'est une fois tous les 10 ans, en moyenne.
C'est quand même pas mal. Ça nous fait une dizaine de films sur Le Fantôme de l'Opéra.
Ouais. Dont un seul, d'ailleurs, vraiment né en France, qui est celui qui a été tourné du ballet de Roland Petit, et un autre qui a été tourné à l'Opéra dans les lieux même, ce qui lui a donné beaucoup de crédibilité. Ceci dit, on peut très bien évoquer magnifiquement le Fantôme Opéra sans tourner dans l'Opéra. C'est le cas d'ailleurs du premier film, celui de 1925, qui est un film probablement... C'est peut-être celui que je préfère personnellement, même s'il n'était pas en musique, mais il était accompagné au piano, enfin, comme les vieilles.
Oui, oui.
C'est un film magnifiquement fait, dont les décors ont été repris en 1943 par un autre film très, très intéressant, parce que, à mon avis, bon, il est en technicolor, il est très bon, mais surtout, c'est probablement le seul film qui fait vraiment sentir la clé de toute cette histoire à partir du roman de Leroux, bien entendu, que je n'oublie jamais, c'est-à-dire le moment où Christine Daae, de chanteuse ordinaire, si vous voulez, jeune femme probablement aussi ordinaire, devient une chanteuse extraordinaire et parvient à la maturité artistique, comprend ce qu'est le grand art, si vous voulez, le grand art, le grand souffle de la musique. Et c'est probablement le seul film qui a su retracer ça de façon tout à fait perceptible, avec une musique qui est empruntée, qui est un peu un bricolage de musique classique, mais qui est assez proche de la musique d'opéra. Il y en a d'ailleurs pas beaucoup qui ont exploité non plus les ressources de la musique d'opéra, ce qui me paraît être dans la série, être un des manques de la série des 10 films, et probablement la possibilité pour un film à venir.
Oui. Et justement, est-ce que, Gérard Fontaine, vous dites qu'il y en a un tous les 10 ans, donc une adaptation du fantôme de l'opéra. Comment est-ce que, à travers le siècle, si on porte un regard rétrospectif, comment est-ce que l'évolution de l'adaptation du film a changé? Est-ce que le regard porté sur le livre a changé au cours de ces années, au cours du 20e siècle? Est-ce qu'on, la façon dont le livre de Leroux a été lu et après adapté au cinéma, est-ce qu'il y a une évolution qui traduit également l'évolution de la société?
C'est pas extrêmement net, mais s'il y avait une dominante, je dirais que les films et les adaptations diverses et variées, y compris la comédie musicale, ont perdu de plus en plus de vue le roman et sont de plus en plus infidèles et de plus en plus éventuellement imaginatives et dans une certaine mesure créative. Mais quand vous reprenez, par exemple, vous étiez parti du film de Dario Argento, qui est de 98, donc c'est pas il y a très longtemps, c'est un des derniers films, un des films les plus récents qui ont été faits sur le sujet, vous avez quand même deux divergences majeures par rapport au roman, et qui, à mon avis, lui font perdre d'ailleurs beaucoup de son intérêt. C'est une des raisons pour lesquelles c'est pas un de mes films préférés, je dirais. C'est que d'une part, Christine Daae finalement choisit le fantôme. C'est le seul film qui fasse ça. Et d'autre part, le fantôme à aucun moment n'est masqué. Ce qui est aussi quand même essentiel.
L'Orchestre Philharmonique des Pays de Loire, dirigé par Marc Soustrot, c'était un extrait de la musique de Marcel Landowski, composée pour le fantôme de l'opéra. Gérard Fontaine, on a évoqué donc ce fantôme de l'opéra qui hante le Palais Garnier. Le titre de votre livre, c'est « Le fantôme de l'opéra, légendes et mystères au Palais Garnier ». Parmi les légendes tenaces, il y a celle, bien sûr, du lac qui serait sous le Palais Garnier. Alors, qu'en est-il? Et d'où vient cette histoire, cette idée de lac?
Ah ben, c'est une idée qui vient de Garnier lui-même. C'est-à-dire que Garnier, en construisant, il a dû construire sur ce qu'était un marécage au XVIIIe siècle,
c'est
un marécage.
Oui, tout à fait, oui.
Donc, pour arriver à faire tenir un bâtiment dont l'intérieur devait être par définition sec, c'était plein de décors, plein de costumes, plein de machins qui doivent être à l'abri de l'humidité. Donc, il a bâti, et ça a été une première technologique mondiale, il a bâti sur marécage une double coque, l'équivalent d'une double coque d'un navire sur mer. Ça avait déjà été fait quelques années avant son chantier sur mer avec le Great Eastern, qui était à l'époque le plus grand bateau du monde et qui a été construit à Londres en 1858. Chez Garnier a commencé son chantier en 62.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, si vous voulez, c'était dans l'air du temps.
Oui, oui, oui.
Simplement, personne n'avait jamais fait ça sur terre. Lui, il a fait ça sur terre, ce qui a débloqué la construction dans des terrains très humides. C'était une première technologique absolue, il le dit, il suffit de lire Garnier, il le dit, il suffit de le croire. Alors, il se trouve qu'accidentellement, pour consolider les ciments hydrauliques dont il avait fait sa double coque en pierre, puisque ce n'est pas une coque de fer, c'est une coque de pierre, naturellement, donc, enfin de maçonnerie, qu'il fallait consolider donc, les ciments hydrauliques prenant et cristallisant plus facilement dans l'eau que dans l'air, il a rempli pendant 3 ans, la double coque, qui n'a pas vocation à être remplie d'eau. Bon. Et puis ensuite, il l'a vidée. C'est tellement vrai qu'en 1870, c'est toujours Garnier qui le raconte, il suffit de le lire pour le comprendre. En 1870, craignant les bombardements allemands, on a abrité là les trésors, les archives, les peintures déjà faites de l'opéra Garnier. Donc, alors, c'était vide. Et puis ensuite, ça a été rempli dans les années 1950 pour équilibrer la remontée éventuelle de la nappe phréatique.
Très bien, merci beaucoup Gérard Fontaine. Je rappelle le titre de votre très beau livre, Le fantôme de l'opéra, légendes et mystères au palais Garnier, qui vient tout juste de paraître aux éditions du Patrimoine. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Olivier Dupré, attaché de production Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.